Archives, du service des archives m'ont informé qu'il y avait à disposition du public ces petits documents qui font de l'information sur les cours d'Occitan qui vont commencer les mardis. Tiens. À partir du 9 février, donc des cours d'Occitan qui auront lieu ici, aux archives, le soir, à partir de 17h30 jusqu'à 19h.
Et c'est le mardi, donc c'est, nous leur rendons, nous leur chauffons la salle.
Et
ensuite,
vous savez que c'est gratuit. Et puis, deuxième information qui est totalement différente, il y a également là un petit questionnaire qu'il convient de remplir si vous le souhaitez, et qui est intitulé « Questionnaire de notoriété des archives municipales de Rue-de-la-Gaillarde ». Donc c'est simplement un recto, un verso, où il y a cinq questions. C'est pour permettre, m'a-t-on dit, de mieux faire le point sur la notoriété, comme le nom l'indique, des archives pour proposer éventuellement des améliorations, des suggestions. Donc à la fin de la conférence, si vous souhaitez, ça serait bien de pouvoir prendre les 10 documents.
Ça commence.
Non.
Alors, ce que je vous propose cet après-midi, c'est ce que j'ai appelé une conférence à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de projection. Pourquoi pas de projection? Parce que projeter les photos de Jacques Chirac, de nous, de Jean Charbonnel, par exemple, je n'en ai pas vu l'intérêt, et donc c'était une conférence à l'ancienne, de manière classique. Alors, c'est une conférence qui, comme l'a rappelé Madame Guély, traite d'un sujet d'histoire contemporaine, et plus particulièrement, qui ressort à ce que certains historiens appellent l'histoire du temps présent. Alors, l'histoire du temps présent, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a été inventée en 1900, vers le milieu de la décennie 70, et qui a été formalisée en 1978, parce que a été créé cette année-là l'Institut du temps présent en histoire, qui est dirigé et placé sous l'autorité du CNRS, et qui a pour finalité de faire de l'histoire, des recherches, des travaux publiés, mais de l'histoire qui a cette spécificité d'être délimitée par la présence d'acteurs vivants. C'est quelque chose de nouveau. C'est l'histoire contemporaine, mais l'histoire du temps présent, parce qu'il y a des témoins encore vivants, et ces témoins-là ont été les acteurs de cette période-là. Donc ce sont des gens qui sont porteurs d'une mémoire et qui contribuent par leurs témoignages, par leurs travaux, qui contribuent bien évidemment à une meilleure connaissance de cette période-là. Et une meilleure connaissance historique, donc d'un passé qui a la particularité, j'y reviens, d'être un passé récent. Cela induit quelques soucis d'ailleurs, toujours dans mon propos liminaire, quelques soucis. Pourquoi? Parce que les bandes chronologiques ont tendance à se raccourcir en amont et à s'allonger en aval, évidemment. À l'origine, c'était quoi? C'était la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les témoins, les acteurs de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Limousin ou ailleurs, il y en a plus énormément. Et bien évidemment, on est au XXIe siècle et il y a de l'histoire du temps présent qui concerne le XXIe siècle, donc c'est pour ça que ça se raccourcit d'un côté, ça s'allonge de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ce dont on va parler, c'est-à-dire le renversement de cette majorité électorale de gauche en Corrèze à l'initiative des jeunes loups gaullistes, fait bien partie de l'histoire du temps présent. Alors, pour conclure ce propos liminaire, je donnerai une dernière information, dernier élément, je crois pouvoir dire qu'ici, tout le monde, ou quasiment, a connu cette période, et que la communication, la conférence que je vais vous faire là, dans quelques instants, je vais vraiment démarrer, avait fait l'objet d'une communication à un colloque qui a eu lieu au mois d'octobre, à Aigleton, c'est le 5 octobre, un samedi, et c'est un vendredi, et c'était un colloque sur le gaullisme, les gaullistes en réalité en Corrèze, et qui a remporté un très franc succès, puisque l'après-midi du colloque, où je suis intervenu avec deux autres collègues, il y avait dans la salle, selon le moment, entre 13 et 15 personnes. ce soir, je vais pouvoir dire que...
Le double.
Elle est dédoublée par votre présence. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais j'ai compris qu'il y a eu très peu de monde pour pouvoir assister à cette série de conférences de communication. Alors la version que je vous propose, c'est une version un tout petit peu plus étoffée que la communication qui avait été faite au mois d'octobre dernier. Bien, alors les jeunes nouveaulistes à l'assaut de la Corrèze en ces années 1960. Et bien, on va démarrer, vous allez voir, un petit peu auparavant, pour mieux comprendre, et on va démarrer par le 28 septembre 1958. Parce que ce 28 septembre 1958, la Corrèze, qui était une terre de gauche, et on va y revenir en détail, mais de manière un petit peu plus approfondie tout à l'heure, mais cette Corrèze, terre de gauche, affiche clairement son opposition à De Gaulle. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, dans le cadre du référendum qui proposait aux Français et aux Françaises de ratifier le projet de constitution qui portait les fondements de la Ve République, eh bien la Corrèze se singularise en métropole par le plus faible pourcentage de oui. C'est-à-dire que tous les départements métropolitains, la Corrèze, juste devant le Gard, est celui qui a le plus voté non. Hein, et le moins voté oui à ce référendum qui va mettre en place la cinquième République. Quel pourcentage de oui ? 70,1% alors des électeurs inscrits. Hein, des inscrits, puisqu'il y a des gens qui, effectivement, ont voté et qui n'avaient voté ni oui ni non, donc ce n'est pas par rapport au suffrage exprimé. Alors, elle hérite à ce moment-là, en cette année 1958, suite à ce scrutin, elle hérite de quoi ? De surnom. Le surnom de la Petite Guinée. Pourquoi la Petite Guinée ? Et tout simplement parce que le même jour, eh bien, donc, dans l'Empire français, il y a eu une seule colonie qui a voté non, hein, et qui, par conséquent, a voté de manière donc, très délibérée non à De Gaulle, et c'était donc la Guinée. La Guinée qui, dans la foulée, va obtenir son indépendance immédiate, donc la Guinée de Sékou Touré. Donc 58, 10 ans plus tard, 68 par conséquent, lors des législatives qui sont consécutives, vous en rappelez à la dissolution de mai 1968, seulement 10 ans après, eh bien, deux des trois sièges corréziens des députés, hein, donc, des parlementaires, et en l'occurrence des députés, sont raflés par des gaullistes, donc dans la circonscription de Gaulle, Jean Charbonnel, dans celle du sel, donc Jacques Chirac, en 10 ans. Comment une telle évolution a-t-elle été possible en un temps aussi limité, une décennie ? C'est peut-être la première question qu'on pourrait se poser. Deuxième question, pourquoi a-t-on donné le nom, entre guillemets, de jeunes loups à ces hommes, pas ces femmes, hein, mais à ces hommes qui ont été les acteurs du renversement de la majorité politique en Corrèze ? Et qui étaient-ils, ces jeunes loups ? C'est la deuxième question. À laquelle la conférence va s'efforcer de répondre maintenant. Alors, pour ce faire, elle sera structurée en trois temps, donc trois parties, dont la durée ne sera pas sensiblement équivalente, malgré tout. D'abord, nous rappellerons la situation politique de la Corrèze avant les années 60. On va démarrer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, voir un petit peu comment cela s'est passé. Puis, nous évoquerons les prémices de l'implantation gaulliste dans le sud du département, dans la circonscription de Brune, puisque c'est là où effectivement cela a commencé, où le phénomène a commencé à se manifester, avant d'aborder, toujours dans cette même partie, deuxième partie, eh bien, ce terme qui est passé à la postérité, ce terme qui était celui que l'Express, l'hebdomadaire, hein, avait utilisé à la une. Suite à l'élection de Jean Charbonnel, en 1966, ils avaient titré « Le coup de tonnerre de Brive ». Parce que ça a été, hein, sa victoire lors des municipales de Brive, après donc, un recours qui avait été, on verra quelques mots un petit peu plus tard, qui avait été fait qu'il avait gagné par rapport au scrutin de 65. Donc dans le cas d'une partielle, eh bien, à Brive, c'est la droite qui l'emporte, et ça a été le coup de tonnerre, et les journalistes de l'Express s'interroger pour se demander si cela n'allait pas être le point de départ bien de ce fameux renversement de la majorité électorale de gauche dans le département. Enfin, dans la troisième et dernière partie, par conséquent, nous présenterons ce dont vous avez entendu parler, je suppose, le fameux, c'est moi qui ajoute fameux, hein, le fameux serment de Solignac. Ce serment de Solignac qui a été le point de départ de l'opération Gennevoux en Limousin et dans le Lot, avant de dresser en conclusion, bien évidemment, un bilan de l'opération Gennevoux en Corrèze et en Limousin. Alors, ma première partie, je l'ai intitulée « La Corrèze à la fin de la 4e République, une terre de gauche qui est rebelle au gaullisme ». Au moment où le régime s'enlise dans la décolonisation, on y a fait allusion tout à l'heure à propos de la Guinée, la Corrèze reste fidèle à la gauche, puisque les dernières élections législatives de la 4e République, qui ont lieu en 1956, le 2 janvier 1956, le démontrent très clairement. Pourquoi ? Parce qu'elle s'effectue tout d'abord, première précision, par rapport à aujourd'hui, s'effectue dans le cadre de scrutin à la proportionnelle. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, tout ce qui s'est passé sur la 5e, mais c'est à la proportionnelle, avec le recours, peut-être que certains s'en souviennent, le recours aux apparentements. Les apparentements, c'était un système un petit peu curieux, qui avait été fait par ce que l'on appelait la troisième force, c'est-à-dire, je résume, hein, je caricature, les socialistes, donc les radicaux, et l'UDSR, qui était le parti notamment d'un dénommé François Mitterrand, donc les résistants, hein, de la, les partis de la résistance. Donc, pour faire quoi ? Eh bien, pour réduire l'influence des communistes et des gaullistes. Les communistes à gauche, les gaullistes considérés à droite. Et donc, l'apparentement, c'est une loi de 1951 qui dit quoi ? Eh bien, selon un principe très simple de ce scrutin de liste à la proportionnelle, si avant le scrutin, les listes qui vont devenir listes apparentées signent un accord, et si elles remportent, enfin si elles obtiennent plus de 50% des voix, elles ont tous les sièges. Donc le but, c'était effectivement d'écarter les deux extrêmes, et ça va pas mal réussir. Donc cette précision étant faite, donc en 1956, que se passe-t-il en Corrèze ? Eh bien, la différence d'aujourd'hui, le nombre des sièges de députés à pourvoir est le double. 4. Hein, il y a 4 députés, donc 4 sièges de députés. Et donc, quels sont les résultats ? Le Parti communiste, même si nous sommes donc en 56, il a toujours une audience qui est importante, puisqu'il rafle 2 sièges, hein, donc il emporte la moitié des sièges, à savoir ceux qui sont dévolus à Pierre Trancher et à Jean Boudou, hein, le premier est toujours de ce monde. Hein, on est bien la preuve là aussi de. Et dans l'histoire du temps présent. La SFIO, dans les socialistes, en emporte un, donc ça fait le troisième, et le quatrième, enfin, il revient à Jean Montala, qui à l'époque est socialiste, et le dernier, les choix radicaux, en recueil en l'occurrence. Donc, 56, carton bleu pour la gauche. Hein, 4 postes, donc, avec ce que l'on appelait à l'époque l'extrême gauche, les communistes, puis donc, les radicaux qui sont au centre, centre-gauche, malgré tout en Corrèze. Si l'on ajoute à ce triomphe de la gauche le fait que les 2 sièges de sénateurs sont détenus l'un depuis 1946 par le socialiste Marcel Champeix, donc Champeix, hein, qui est maire de Basseret, et l'autre depuis 1952 par le radical Alexis Joubert, qui a succédé bien, à François Labrousse, qui est décédé en 1951, eh bien, regardez, ce que l'on peut dire, c'est que la droite corrézienne n'est plus représentée au Parlement. 4 plus de 6 sièges de parlementaires, aucun siège détenu par la droite. Et elle ne l'est pas non plus, la droite représentée à la tête des principales municipalités, ou des municipalités des principales communes de Corrèze. Pourquoi ? Parce que le parti radical gère Prive et Tulle, avec respectivement Henri Chapelle et puis Jean Massoulier, dont le premier adjoint à Tulle, hein, Massoulier est son premier adjoint, et Montala, dont on a parlé, le socialiste. Et puis à Ussel, c'est une municipalité, elle aussi, socialiste, qui est destinée de la cité des Pelots, où bien le maire est François Barre. François Barre, socialiste, qui a quand même une belle spécificité, c'est qu'il n'a pas été destitué, élu pour la première fois en 1934, et qu'il n'a pas été destitué, ni pas destitué par le régime de de Vichy. Hein, donc, c'est quand même assez spécifique. Pas décidé sous le régime de Vichy et par le régime de Vichy, par le régime de l'État français, dit de Vichy. Alors, l'RPF de De Gaulle, hein, donc, le Rassemblement du peuple français, parti qui a été créé par De Gaulle en 1947, au moment où il commence à traverser du désert, eh bien, le RPF en Corrèze, il a fait long feu, puisque déjà, lors des législatives 5 ans auparavant, la mandature précédente, en 1951, eh bien, la liste qui était conduite en Corrèze par Edmond Michel, eh bien, cette liste-là, qui était pourtant député sortant, hein, qui se présente en 1951, qui était ancien ministre des Armées, n'a eu aucun élu. Et pour l'ancien déporté résistant, c'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin de son parcours politique corrézien. Par la suite, il sera à nouveau parlementaire, mais il sera sénateur à Paris, et il sera député du Finistère, mais en Corrèze, terminé, donc il n'aura plus aucune responsabilité politique. Donc cette situation politique, hein, donc à la fin de la 4e République, est le résultat d'une évolution qui me paraît intéressante à analyser. Au sein de la gauche, le Parti communiste, donc toujours bien présent dans les années 50, a tenu une place tout autant essentielle que singulière dans la vie politique locale. Alors, son électorat, et bon, ça je crois que ça mérite d'être signalé, son électorat ne repose pas vraiment, dirais-je, sur la classe ouvrière. C'est une particularité de la Corrèze. Évidemment, il n'y a pas trop d'usines, il n'y a pas trop d'industries dans le département, et finalement, ce qui est intéressant de faire valoir, c'est que c'est un communisme agraire, rural et même agraire, hein, donc qui s'appuie sur les paysans et puis sur les ruraux, et ça, c'est une spécificité donc de la Corrèze, et puis aller au-delà également du Limousin. Alors, quelques faits méritent d'être rappelés très rapidement à cet égard. En 1920, au congrès de Tours, eh bien, les socialistes corréziens quittent massivement la SFIO et choisissent la SFIC, la section française de l'international communiste, donc le futur parti communiste. 1936 a vu dans le département l'élection d'un député communiste. Ça, c'est une, là encore, spécificité. On n'a personne de Marius Bazaine, qui, vous le savez, était l'ancien garde général des Eaux et Forêts sur le plateau de Millevaches et qui a été à l'origine d'une bonne partie du reboisement. Donc ça, c'est assez original. Ensuite, autre remarque qui explique le succès du Parti communiste, c'est quoi? C'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, au sein des maquis de Corrèze, les FTP, les francs-tireurs et partisans, donc ont été bien présents. Et évidemment, à la Libération, le Parti, comme on l'appelle, c'est la majuscule, a le vent en poupe, hein, en Corrèze, dans notre département, puisqu'il va rafler la moitié des sièges à pourvoir, donc à l'Assemblée nationale constituante. Et par ailleurs, les villes de Thunes et de Brive sont données pendant quelques temps, ça va durer très longtemps, des maires, donc communistes à Brive, c'est Maurice Rouel, qui a droit à une toute petite rue, tout à fait à l'écart, donc de la rue, enfin, la partie sud de l'agglomération, une toute petite rue. Là. Ça, c'est un jugement qui est personnel. Donc des municipalités dirigées par des communistes. Alors, les radicaux, eux, au même moment, c'est-à-dire à la Libération, ont accusé le coup, malgré le comportement honorable de quelques-unes, donc des, leurs figures de proue, rappelant que François Labrousse, hein, et Alexis Joubert ont été deux des 80 à avoir refusé, les 80 qu'on appelle les 80, les 80 parlementaires, l'un était sénateur, l'autre était député, à avoir refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et il y en a de 80 en France, hein. C'est pas beaucoup. Donc on sait que Queuil a refusé et s'est abstenu volontairement, mais parmi les 80, il n'y en a que deux en Corrèze, et la Corrèze est l'un des rares départements à avoir eu deux, au moins deux députés, enfin deux parlementaires, pardon, à avoir refusé les pleins pouvoirs. Dans le reste du Limousin, où à l'époque, il faut le rappeler, tous les élus étaient de gauche, dans le reste du Limousin, il n'y en a qu'un troisième, hein, donc Roche à Rodiel, hein, qui a voté également contre les pleins pouvoirs de Pétain, donc ça fait pas beaucoup. Hein, et ça méritait donc d'être rappelé, puisque les deux, en l'occurrence, étaient des radicaux. Celui dont je vous parlais à Rodiel était, lui, un socialiste. Alors, après cette guerre-là, eh bien, il ne faut pas oublier que Queuil, pendant la guerre, d'abord, que Queuil a été quand même vice-président du Comité français de libération nationale à Alger, que lorsque De Gaulle, à deux reprises, a quitté, donc s'est absenté pour aller à Londres, pardon, c'est lui qui a assuré l'intérim pendant quelques temps. Bien, alors, 46, libération, que donc réussi à remobiliser son électorat avec évidemment le reste de certains radicaux, avec d'autres radicaux, on va employer ce terme-là, et donc il retrouve son siège à l'Assemblée nationale en 1946, et Henri Chapelle, qui avait été destitué par Vichy en 1940, maire de Brive, hein, destitué par Vichy en 1940, et il a appris ça par la radio, qu'il allait être obligé de passer à autre chose, et bien lui, il est à nouveau donc élu, même s'il y a eu un internat, on a dit, communiste, entre temps. Et donc, que dire, pour terminer, de la SFI au nom des socialistes, la SFI autorisienne, elle avait sorti affaiblie, on l'a vu, du congrès de Tours, et durant l'entre-deux-guerres, elle voit son poids à son rapprochement avec les radicaux, ce qui lui a valu 34%, mais c'est ça, 34,31% des suffrages qui ont été exprimés lors des législatives du Front populaire et l'élection de trois députés, dont vous connaissez, je suppose, l'un d'entre eux, Charles Spinas, qui va mal virer pendant le régime de l'État français, Jean Roumajon et Julien Péchaneau. Alors, au total, si les positions ont fluctué au sein de la gauche, entre communistes et non-communistes, celle-ci, la gauche, hein, paraît solidement ancrée en Corrèze. Et le référendum de 58, on l'a vu, l'a confirmé. Et ce dimanche 28 septembre 1958, les Corréziens, comme les Français, sont appelés à répondre par oui ou par non, et j'y reviens, hein, pour parler un petit peu de l'histoire locale, par oui ou par non, à la question suivante, c'est ce qui faisait l'objet, sur le bulletin, de ce référendum. Approuvez-vous la constitution qui vous est proposée par le gouvernement de la République ? Oui ou non ? Alors, on le sait, cette constitution, ce projet de constitution a été présenté par De Gaulle de manière très symbolique. Il a choisi la date, le 4 septembre 1958. Il la présente aux Français, en réalité c'était aux Parisiens. Pourquoi le 4 septembre et pas le 5 ou le 3 ? Parce que c'était la date anniversaire de la proclamation de la Troisième. Donc il choisit une date symbolique, le 4 septembre. Il fait ça où ? À Paris. Où place de la République, dessous la statue de la République, et là il présente aux Français donc, le projet de constitution. Et puis, ensuite, ce projet de constitution fait l'objet de ce référendum dont on vient de parler. La campagne en Corrèze, elle a été rude. Et qu'est-ce qu'il a mené ? Qu'est-ce qu'a mené la campagne pour le non, hein, la constitution ? Le Parti communiste. Le Parti communiste français, hein, qui est à la tête du combat contre De Gaulle, était le 30 juillet, conjointement avec la CGT, il a organisé une contre-manifestation à une réunion publique en soirée, je cite, donc réunion publique, donc ça c'était le slogan du Parti communiste, réunion publique des factieux du comité départemental dit le salut public, camouflé en comité de oui pour le référendum plébiscite. Donc c'est effectivement très très bien ciblé, il n'y a pas de tromperie sur la manière dont la réunion va se passer. Et la réunion se passera très bien. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des échauffourées, hein, des échauffourées, et se produit ces échauffourées, et la police intervient, et on va relever 25 blessés. Hein, ça n'est pas rien. Et parmi ces blessés, l'un dont vous avez entendu parler, qui était le secrétaire de la Fédération corrézienne du Parti communiste, qui était André Lajoigny, qui deviendra député. Ensuite, député de l'Allier, il a choisi, il a reçu un coup de matraque sur la tête, et il va être donc hospitalisé, il a été évacué victime d'une fracture du crâne, suite à un matraquage. Donc, ça s'est pas très bien passé. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rude, hein, dur et rude, ça. Alors, de même, à Paris, en particulier, il y a une guerre des affiches. Il y a des affiches, hein, oui, non, vous en doutez, et également les tags. N'existait pas, tout le moins le vocable n'existait pas, mais les inscriptions à la peinture étaient pratiquées à ce moment-là, et notamment, d'après ce que j'ai pu retrouver dans les archives, donc ces inscriptions à la peinture donc, battent leur plein, et le slogan non à De Gaulle, fleurit jusque sur les murs de la collégiale Saint-Martin, inscrit, on n'était pas dans le même état, elle a été rénovée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc on n'a pas hésité donc, à écrire non à De Gaulle. Et puis, là aussi, le lieu est hautement symbolique, sur les murs du palais de justice. Quand même, on choisit des cibles, on se doute qui est-ce qui a l'origine, mais on choisit des cibles bien particulières. Voilà donc des lieux qui sont symboliques de la cité. L'heure du scrutin approche, là, en ce mois de septembre, est nécessaire effet pour que le corps électoral ne soit pas distrait par quelques autres manifestations. Et ainsi, à Brive, certains s'en rappellent, il y avait le grand critérium cycliste que l'on appelait le tour des boulevards, et pas de chance, ça tombait le jour du référendum. Alors, des choses qui sont impensables, semble-t-il, aujourd'hui, hein, on est en 1958, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer qu'on va essayer de le déplacer, hein, pour que les gens aillent voter, accomplissent leur devoir des citoyens et des citoyennes. Et puis, le comité corrézien pour le référendum propose un service qui s'appelle exactement un service de transport gratuit à tout électeur âgé ou alors impotent qui souhaiterait donc participer au scrutin local et avoir la mise à disposition de véhicules pour permettre à ces personnes-là âgées ou impotentes, handicapées, pour pouvoir effectuer leur devoir civique. Alors, un score de participation qui nous ferait aujourd'hui blémir, 83% de votants. Hein, donc à ce référendum, on pourrait, c'est-à-dire 2 points de plus que la moyenne nationale. On a voté donc, plus qu'au plan national. Et ainsi que cela a été rappelé, les résultats ne souffrent pas de la moindre ambiguïté. Et si on exprime les suffrages par rapport, si on exprime les résultats par rapport aux suffrages exprimés, eh bien c'est 64%, hein, donc c'est un écart de oui seulement, c'est un écart de 19% avec la moyenne nationale, et 47 communes corréziennes, hein, c'est beaucoup, hein, 47 communes corréziennes, c'est quasiment un sixième, hein, donc une sur six ont carrément voté non. Et la palme revient à Soudelles-la-Minadière, dans le canton de Trégnac, où là le score est de 17%. Non, je les prenais. Le score est de 11,71%. Donc pour le oui. Le oui, Soudelles-la-Minadière, où une présence communiste très forte, moins de 12% de suffrages exprimés pour De Gaulle. Et on peut dire en conséquence que la résistance au gaullisme et à son projet de constitution monarchique, comme disaient les communistes, pour reprendre leur slogan, n'est donc pas un vain mot en Corrèze. Alors une fois la constitution donc promulguée et publiée au journal officiel, avec d'ailleurs, je l'avoue, avant de préparer la communication, on n'était pas rendu compte, mais j'ai retrouvé le texte original lorsqu'elle a été promulguée au journal officiel. Il y a une propension à, dans le texte hein, officiel, une propension très importante aux majuscules, il y en a partout, puis il y a une faute d'orthographe. Une faute dans l'article, et c'est pas n'importe quel article, c'est l'article 16, vous savez, celui qui peut donner, simplement une possibilité un petit peu romanique, qui peut donner au président de la République, en cas de crise grave et de reste d'institution, on peut pouvoir, dans une période limitée dans le temps, après l'élération, accord de l'ensemble du Parlement. Là, il y a une faute d'orthographe, paf, hein. Là, le journal officiel, ça l'affiche pas. Bien, alors, place aux législatives 58, Constitution, donc Nouvelle République, et on va voter donc, pour les législatives de 1958. Qu'est-ce qui se passe en Corrèze? Et ça permet d'aborder la deuxième partie où j'évoque les prémices d'une implantation gaulliste en Corrèze. Alors, je l'ai laissé entendre, c'est plus le scrutin à la proportionnelle, scrutinisme proportionnel, c'est un scrutin uninominal, donc à 2 jours, et les résultats donc, ne manquent pas de surprendre encore. Première surprise, parce que je crois qu'on peut aller jusqu'à on peut cette heure-là, aucun candidat ne se réclame du parti gaulliste qui a été créé, l'UNR, donc l'Union pour la Nouvelle République, dans la circonscription d'Ussel. À Ussel, pas de candidat gaulliste. Hein, c'est marrant, en 1958, on va voir qu'à partir de 10 ans après, il va y avoir un élu qui défend les couleurs gaullistes du moment. Alors là, à Ussel, il y a deux candidats modérés qui affrontent la gauche, qui est représentée par le radical Marcel Audy, le socialiste, dont on a parlé François Vard, puis il y a également un communiste qui est présent. Et le deuxième tour donne lieu à un duel entre socialistes et communistes, qui tourne à l'avantage du socialiste avec un score sans appel, 57,5%. Et dans le prolongement des résultats du référendum, la gauche a donc annulé les tout débuts du gaullisme, je dis bien Roque-Corrèze. Et ça, c'est intéressant, semble-t-il. Ailleurs, que se passe-t-il dans le reste, en ce qu'on appelle la moyenne et la basse Corrèze? Bien, nous assistons à un scénario qui est sensiblement équivalent et qui se déroule dans la circonscription de Tulle. À la différence, cependant, que là, il y a un candidat gaulliste. On a trouvé un candidat gaulliste et sa prestation à Tulle s'avère modeste puisque c'est 14,1% au premier tour. Donc, c'est pas mirobolant. Pourtant, il décide de se maintenir pour le second et il va y avoir donc une triangulaire. Puisque le 30 novembre 1958, eh bien, le socialiste Montala l'emporte facilement avec 55,1% du suffrage face au communiste Pierre Pranchet. Le parti gaulliste s'est effondré en le rassemblant, lui qui s'est maintenu, 14,1 au premier tour, 3,8 au deuxième. Donc, pas gagné. Hein. La participation ayant été quasi équivalente à celle du premier tour, ce qu'on peut faire, me semble-t-il là aussi, c'est qu'on peut considérer que la majeure partie des électeurs gaullistes a voté Montala par réflexe anticommuniste. On verra que ça va se reproduire ailleurs. Toutefois, c'est la circonscription de Brive qui va se singulariser, puisque c'est là en effet où le gaullisme va remporter son premier succès en Corrèze, puisque malgré la multiplicité des candidatures dans le camp des modérés, eh bien, le candidat gaulliste, qui s'appelait donc Jean Fillol, lors du premier tour, on n'était pas donné gagnant parce qu'il y avait une grande multiplicité de candidatures donc, de modérés. Ils sont trois, effectivement, à concurrencer. Alors, qui sont-ils? Il y a un candidat à MRP, hein, donc, un gaulliste dit de gauche, c'est-à-dire, bon, MRP, c'est le mouvement républicain populaire, en d'autres termes, si je simplifie, ce sont les démocrates chrétiens donc, et centristes. Donc il y a également un gaulliste qui se dit de gauche, en la personne du général Pierre Pouyal, qui est le candidat de l'Union républicaine sociale et agricole, et puis un notable qui est fortement enraciné dans la région de Brive, dans le canton de Donsbach, donc, qui est maire d'Alassac, qui est Ernest Moulinex, qui sera maire d'Alassac pendant de très longues années et qui est conseiller général donc également du canton de Donsbach. Surprise, à lui seul, Fillol, qui n'est pas connu, mais qui se présente sous l'étiquette gaulliste au nom de l'UNR, rassemble presque autant d'électeurs lors de ce premier tour que les trois autres candidats modérés. Alors, je vous donne les voix, 10 769 pour lui, contre 11 074 pour les autres. Ça se joue à 400 voix. Et dans le cas inverse, la gauche est divisée. Jean Boudou, qui est député communiste sortant, est devancé. Il devance, pardon, dans l'ordre, le radical Jean Lambouli et le socialiste André Jalina. Et la tâche de Fillol ne semble pas les plus aisées, mais une fois encore, l'anticommunisme va forcer le destin. Pourquoi? Parce que Lambouli va se maintenir. Il va y avoir en gros donc une triangulaire. Et là, c'est le candidat de l'UNR, Fillol, qui s'impose avec 49,7% des suffrages lors de cette triangulaire. Alors, qui est cette personne-là? Qui est ce pionnier qu'on a oublié aujourd'hui, hein? Parce qu'on pense à Charbonnel, on pense à Chirac, mais Fillol, malheureusement, est resté dans les oubliettes de l'histoire contemporaine. En quelques mots, quel est ce pionnier du gaullisme en Corrèze, quelque peu oublié aujourd'hui, je le maintiens. Alors, c'est quelqu'un qui était né en 1906 à Argentat, et c'était un ancien des forces françaises libres, donc un gaulliste historique, hein, il faut employer le terme. Il était titulaire d'un diplôme donc, d'études spécialisées de, et en philosophie. C'est un diplomate. Hein, un diplomate. Et en 1954, il est devenu ministre plénipotentiaire. Et dans sa profession de foi, lors du premier tour, il se définit comme un homme libre et fidèle. Bien sûr, par rapport à De Gaulle hein, et au gaullisme. Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme un jeune loup ? Pas vraiment, tant en raison de son âge que de son style politique, puisque on va voir que le style politique des jeunes loups, c'est tout à fait autre chose, et on va le qualifier, moi je vais le qualifier de gaulliste historique, soutenant l'action du général et celle du gouvernement, de ce premier gouvernement, et à l'échelon local, je crois que son grand mérite, c'est d'avoir ouvert la voie à Jean Charbonnel, et puis dans la foulée à celle de Jacques Chirac. Alors, pourquoi a-t-il ouvert la voie à Charbonnel ? C'est que Fillol va avoir de sérieux ennuis de santé et qu'au cours de son mandat, je veux dire son premier mandat n'a fait qu'un seul, au cours de son mandat, il ne va pas pouvoir donc continuer à l'exercer de la manière qu'il espérait, qu'il souhaitait, et surtout, en 62, il ne va pas se représenter, il ne va pas défendre son siège lors des législative de novembre 52, consécutive, donc 58 mandatures plus 5, c'était 63, mais ça a été anticipé parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a eu donc le renversement du gouvernement, hein, du gouvernement Pompidou le 4 octobre par l'Assemblée nationale, et donc dans la foulée, dissolution, donc de nouvelles élections. Et donc Fillol ne peut pas se représenter pour raison de santé. Et qui est-ce qui va être adoubé, qui va être adoubé pour prendre le relais au nom de l'UNR ? C'est Jean Charbonnel, hein, qui a 35 ans à l'époque, et qui incarne déjà, même si le terme n'existe pas, qui incarne tout à fait le jeune homme gaulliste. Alors, c'est un homme qui est jeune, qui a 35 ans, qui est né dans l'Aisne, à La Fère, donc dans ce département-là où son père était receveur des finances, et donc il est né au gré de mutation. De son père, donc il est né dans ce département de l'Aisne, et il est envoyé en terre corrézienne avec pour mission de garder au parti gaulliste cette circonscription de Brive. Alors c'est un ancien élève de l'ENA, il est conseiller à ce moment-là technique au sein du ministère des Gardes des Sceaux, et ce jeune homme, 35 ans, je le répète, n'a pas tout à fait l'apparence d'un simple parachuté. Son patronyme, quand même, Fleurbon, le terroir corrézien, donc Charbonnel, et effectivement, donc son grand-père paternel, puisque le Charles Charbonnel a été maire de Perpezac-le-Noir, où il a fait plusieurs mandats au début du siècle, il en a fait deux entre 1900 et 1912. Et donc la lutte, elle est âpre lors de ce premier tour. Et le second tour est particulièrement serré donc, face au communiste Goudou, Jean Goudou, puisque moins de 700 voix, ce qui est très peu, ont séparé les deux hommes à l'issue du deuxième tour. Mais c'est donc Jean Charbonnel, qui ne détient pour le moment aucun autre mandat, qui effectivement est élu. Donc, si je vous donne le score, avec 700 voix, ça fait 50,80%, hein, ce qui est relativement peu. Et en cette fin d'année 62, puis c'était au mois de novembre, l'assise électorale du gaullisme en Corrèze s'avère quand même fragile, hein, puisque le 28 octobre, donc déjà, une majorité des électeurs avait voté non au référendum relatif à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Toutefois, sur le plan parlementaire, l'UNR a réussi donc à conserver un poste de député, celui de la circonscription de Brive, et dans la circonscription du Sel, le candidat gaulliste, qui avait été parachuté quasiment au dernier moment, qui s'appelait Jean Lachaud, a fait un score bien plus encourageant que ce qui s'était passé au préalable, et notamment, puisqu'il n'y a eu personne, en 1958. Donc le travail d'enracinement reste à accomplir, et il échoue à qui ? À ce jeune député de la Corrèze. Et celui-ci va s'y employer avec plus ou moins de bonheur, et réussite quand, en 1964, avec son élection donc, de conseiller général du canton de Brive-Centre, échec, mais de justesse, j'ai fait allusion indirectement tout à l'heure, lors du municipal de 1967. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque 65 voix, donc c'est très très peu, donc, à la liste charbonnaise, hein, donc ce qui est très peu pour ravir au radicaux les municipalités de Brive. Mais des irrégularités ayant été constatées, donc des irrégularités supposées ayant été constatées, puisqu'un recours a été fait, ayant été donc confirmé, bien, donc, le juge administratif, le Conseil d'État, le 13 juillet 1966, confirme l'arrêt du tribunal administratif de Limoges et invalide les élections municipales de Brive, perdues avec ce score très très modeste. Donc, cette différence est déclarée très très faible. Il va y avoir un troisième tour. Et ce troisième tour, il va avoir lieu donc en 1966. Et dans cette perspective-là, Charbonnel, qui est devenu secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé de la coopération, qui est donc entré au gouvernement, que fait-il ? Il ouvre sa liste en faisant une liste de rassemblement à qui ? Aux radicaux de l'ancien maire, qui accepte donc de venir sur sa liste. L'ancien maire, en 1961-1965, qui était Roger Courbataire. Et dans l'autre camp, c'est totalement différent par rapport à 1965. Les conditions ont bien changé. Le maire sortant, qui avait été élu donc en 1965, Jean Laboni, il offre, entre guillemets, 10 sièges sur les 31 acquis aux communistes. Donc c'est l'union de la gauche, ce qui n'est pas le cas donc en 1965 et en 1966. Donc deux choses importantes. Le candidat de gaulliste, s'allie avec les radicaux, est devenu ministre, même s'il a une fonction de secrétaire d'État. Et surtout, à gauche, c'est l'union de la gauche. Et le dimanche 6 octobre 1966, eh bien, la gauche unie va mordre la poussière. Et comme je vous le disais, donc, l'Express, titre insoumis, et ce succès ne pouvait qu'attiser les ambitions politiques des gaullistes. La dernière partie, à la troisième, en évoquant donc ce fameux, c'est moi qui ajoute, je le répète, serment de Solignac, quand le jeune Guillaume Bolis décide de faire feu de tout bois. Dans cette victoire charbonnelle, dans le cas d'une partielle en 1966, sur le plan municipal, tombe au bon moment. Pourquoi ? Parce que le printemps 67 arrive, et avec lui, le renouvellement de l'Assemblée nationale. On va parler 65 plus 2, 65. Hein. Donc il va y avoir de nouvelles élections donc, de députés. Et pour les gaullistes, l'opportunité, c'est celle-ci. Tirer profit du coup de tonnerre de Brive, comme l'a titré l'Express, pour amplifier le succès et l'étendre à l'ensemble de la Corrèze, voire au-delà, hors des limites départementales. Et dans cette perspective-là, naît ce que des journalistes, notamment ceux que l'Express ont appelé en décembre 1966 l'opération Genoux. Hein, donc c'est le point de départ de l'opération Genoux. Donc il s'agit de quoi donc ? Il s'agit de prendre à la gauche radicale et socialiste et à leurs élites vieillissantes, ça c'est un critère qui est important, hein, puisque le terme Genoux, le vocable jeune est utilisé, donc à leurs élites vieillissantes et qui parfois étaient issues de la résistance, les terres corréziennes qui sont, puis Limousines aussi, hein, qui sont en retard de développement et qui sont en proie au dépeuplement dans le Limousin, mais aussi dans le Quercy. Hein, l'opération Genoux, c'est pas uniquement la Corrèze, c'est l'ensemble du Limousin et on y a ajouté le Quercy, donc le département du Lot. Et pour ce faire, s'impose la nécessité de rénover les méthodes et de rajeunir le personnel politique. Et derrière cette initiative se cache Pierre Juillet. Pierre Juillet, qui était donc, qui est considéré comme l'éminence grise du Premier ministre de l'époque, donc, Georges Pompidou. Et courant novembre 1966, la publication de la liste des candidats qui est investie par le Comité d'action pour la Ve République fait apparaître effectivement des têtes nouvelles en Limousin, en Quercy également, et même, on pourrait dire, les débutants en politique. Alors, ce que l'on pourrait appeler, si on fait une allusion à ce vocable relatif au cinéma, la nouvelle vague gaulliste. Cette nouvelle vague gaulliste a pour nom, alors, Pierre Mazeaud, gaulliste, hein, donc, pour la circonscription de Limoges-Bellac, Louis Limoujou, non pas pour Bruxelles, mais pour Limoges et Moutier, Philippe Chabassier pour Saint-Thierry et Rochechouart, ceci pour la Haute-Vienne. Alors, on creuse des noms qui ne sont pas passés à la postérité, Claude Binet et Jean Bazet. À Tulle, eh bien, Charbonnel, évidemment, un dénommé Jacques Chirac, pour la circonscription d'Ussel, et puis, donc, pour celle de Tulle, Jean Brugeot. Et puis, dans le Lot, puisqu'on a parlé du Quercy, il y a deux noms, l'un qui sera peut-être sera familier par la suite, donc c'est Bernard Pons, le docteur Bernard Pons, qui sera ministre par la suite, hein, pour la circonscription de Figeac, et puis Jean-Pierre Danneau, moins connu, pour celle de Cahors. Alors, l'entrée en campagne se veut tonitruante. Elle doit être, elle se veut tonitruante, elle sera. Hein, donc, pour frapper les consciences, elle est confiée à qui ? À Jean Charbonnel, qui est sûr, c'est lui qui est élu, qui a raflé la municipalité de Brive aux radicaux, hein, donc c'est lui qui obtient la responsabilité d'organiser ce que l'on espère un succès. Et il choisit la commune de Solignac, au sud de Limoges, comme lieu, c'est moi qui apprends le terme, hein, comme lieu de conspiration. Hein, lieu de conspiration. Et là, les dix futurs candidats, ceux que j'ai nommés il y a quelques instants, se retrouvent le dimanche 4 décembre 66 dans une auberge du modeste bourg où Saint-Éloi, au 7e siècle, a fondé une abbaye. Et la presse nationale, bien sûr, ça doit être dynamique et tonitruant, la presse nationale est convoquée, hein, pour assister donc, à ces travaux, pour assister à cette sorte, c'est moi encore qui ai bâti ce terme-là, cette sorte de conseil de guerre qui est présidé par le maire de Brive. Et dès le début donc, de son intervention, le jeune énarque est normalien, il a fait Normal Sup, hein, vous avez parlé de l'énarque, Normal Sup, agrégé d'histoire, et bien le jeune normalien Charbonnel, dans son début de son intervention, se veut explicite, je cite, hein, « Nous voulons libérer le Limousin de Quercy des forces mauvaises qui le dominent encore trop largement. Et elles sont au nombre de trois, le conservatisme social, le communisme et, je cite, à nouveau là, une certaine fédération de la gauche démocrate et socialiste qui regroupe l'ensemble des députés sortants sous une bannière bien trompeuse, car il s'agit en fait, du moins en Limousin, d'une formation qui n'est ni une fédération, ni à gauche, ni démocrate, ni socialiste. C'est un volontaire. Et la feuille de route est simple, menée par, je cite, une avant-garde qui va lutter, je cite, avec fermeté et courage. Le combat doit être celui de l'honnêteté et de la vérité, avec pour finalité de reconstruire les structures sociales dans nos provinces, la situation, par une œuvre de relance économique, important ça, hein, relance économique, de rajeunissement social, tout aussi important, d'essor et de renouveau. Et afin de solenniser le moment, l'agrégé d'histoire conclut par une référence explicite au serment du jeu de pommes, de quelle façon, en disant, un peu, je considère, hein, que ça c'est une référence au jeu de pommes, avant de nous lancer nous-mêmes à l'assaut, faisons comme nos pères de 1789 et jurons de rester unis et solidaires jusqu'à ce que les murailles de la forteresse, c'est-à-dire les préjugés, l'ignorance et la misère, soient tombées sous notre victoire. Ça s'est envoyé, hein. Ça c'est le discours. Enfin, j'ai pu le récupérer, le discours.
Oui, le vocabulaire a beaucoup changé. Hein.
Pardon ?
Le vocabulaire a beaucoup changé.
Le vocabulaire a singulièrement changé, j'en conviens. Oui, on ne se pas dans un autre monde. Hein. Ouais. Alors, le surlendemain, Le Monde, quotidien. Titre : Les candidats à la 5e République dans le Limousin et Quercy veulent, entre guillemets, citation, de libérer la région d'un monopole étouffant. Et l'opération Jeune Mongoliste a créé son premier écho médiatique. Mais vous en doutez, le mur reste à accomplir. À l'assaut de ce bastion corrézien, les jeunes loups ne manquent pas d'atouts et de moyens. Quels sont-ils ? Tout d'abord, comme cela a été indiqué, ils peuvent faire valoir leur jeunesse. Dans un département où une vieille garde continue à veiller sur les affaires politiques locales, tel Henri Chapelle, 85 ans, en cette année 66, Henri Queux, 82 ans, ou François Var, à Ussel, 78 ans, Les impétrants se singularisent par leur juvénilité. Jacques Chirac, qui a été élu conseiller municipal Saint-Ferréol en 65, sans avoir fait officiellement de candidature, hein. Il le confirme dans le tome 1 de ses mémoires, s'est retrouvé candidat sans l'avoir demandé. Il a été inscrit de fait, puis après il a accepté, bien évidemment. Donc à 35 ans, Chirac est maire de Brive, donc on a désormais 5 de plus par rapport à l'âge que j'avais évoqué, donc 40 ans. Bien sûr, qui dit jeunesse dit dynamisme et donc perspective d'efficacité. Et en effet, les jeunes loups, de par leur fonction à Paris, au sein des cabinets ministériels, connaissent très bien les rouages du système politique et surtout du pouvoir central, et ils se font fort de mobiliser en Corrèze les aides de l'État afin de combler ce fameux retard de développement de et dans leur département. Et ce sera l'une des priorités une fois élu en 67. Et déjà, quelques années auparavant, déjà en 64, donc 3 ans auparavant, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai retrouvé ça, le député socialiste Jean Montalin en avait fait le constat en déclarant, je cite, qu'une quarantaine de départements français appartenant à la Bretagne, au Massif central, à l'Aquitaine, au sud et au sud-ouest de la France sont dans un état de sous-équipement et même de stagnation et de régression économique. 64. Et depuis, 3 ans s'étaient écoulés, rien n'avait été vraiment engagé. Et donc, c'est aux députés Genoux, s'ils sont élus, d'inverser le cours des choses. Et c'est donc une rupture qu'ils proposent. Une rupture qui va de pair avec un style politique qui est nouveau. Le combat idéologique n'est pas délaissé. Attention, on ne va pas se méprendre. Hein. Mais ce combat donc, idéologique qui avait été celui qui avait gouverné, entre guillemets, donc, l'ensemble des campagnes électorales précédemment, il est mis au second plan, il s'affiche plus au premier plan, hein, combat idéologique. Puisque les grandes réunions publiques contradictoires ne leur paraissent plus vraiment adaptées à ces candidats jeunes loups à la députation. Ils préfèrent les rencontres avec les élus municipaux. Ça, c'est nouveau. Hein. Les rencontres avec les élus municipaux, avec les maires principalement. Mais pour se faire connaître, il faut aller aussi au contact de l'électeur, au contact de l'électrice. Et donc, il faut, selon une expression qui commence à apparaître à ce moment-là, il faut labourer, hein, labourer la circonscription. Pour cela, il faut avoir sur place, puisqu'on a vu qu'il travaillait beaucoup dans des cabinets ministériels à Paris, il faut avoir sur place des relais locaux par conséquent, qui sont donc indispensables. Alors, se considérant comme des experts de la chose politique locale, ces personnes-là, hein, donc ces relais, ces entremetteurs, on pourrait les qualifier ainsi, jouent un rôle déterminant. Parce que sans eux, les jeunes loups ne seraient considérés que comme des technocrates, parachutés depuis Paris, donc depuis la capitale, sur la terre de leurs aïeux. À l'exemple de Charbonnet, Chirac peut se prévaloir, lui aussi, son grand-père paternel, Louis Chirac, ancien directeur de l'école à Brive, franc-maçon, radical engagé dans la vie de la cité. De la cité, donc, qui est brûlée. Et dans ses mémoires, que je disais tout à l'heure, Jacques Chirac décrit fort bien ce qui a été son style. C'est je m'attache dès le début de la campagne, législative 67, à privilégier le contact direct, personnalisé sur les considérations partisanes. J'entreprends de rencontrer un à un tous les électeurs de la circonscription. Mon premier souci est de les connaître individuellement, de sonder leur état d'esprit, d'écouter leurs doléances, aussitôt enregistrées sur notre dictaphone, pour être prises en compte et si possible satisfaites de mon retour à Paris. Je visite chaque ferme, arpente chaque foiraille, fait halte dans chaque discours. Au bout de quelques mois, c'est Chirac, il est peu de maisons où il ne soit rendu au moins une fois. Il a encore aux yeux des jeunes loups, être membre par ailleurs de la CODER. La CODER, c'était la Commission de développement économique régional avant que le Conseil régional ne se mette en place. Eh bien, être membre de la CODER en Limousin, donc c'était un organisme territorial, mais la CODER était un organisme qui était consulté par le préfet de région sur la question relative à l'aménagement du territoire et au développement économique. Eh bien, être membre de la CODER est un atout, on n'est pas élu, on est nommé, désigné par le membre de la CODER. Eh bien, être membre de la CODER, ça fait bien sur la carte de visite, hein, donc on se débrouille pour y être nommé, quitte à ne pas y siéger. Où Chirac et Charbonnel est siégé à la CODER. C'est comme ça, mais c'est important de montrer l'intérêt à la région. Donc en 1964, Chirac a été nommé à l'initiative de Pierre Juillet et Charbonnel, je vous l'ai dit, sera également membre. Alors toutefois, le succès n'est envisageable qu'avec le relais de la presse locale. C'est bien beau de labourer le terrain, mais si on n'a pas le relais de la presse locale, ça ne va pas le faire, pour une expression beaucoup plus commune. Alors, à Brive, il y avait le journal, qui était un journal d'opposition au gaullisme, qui était très, très véhément exacerbé, c'était la Dépêche du Midi. Il y avait donc une édition corrézienne et briviste, hein, surtout. Et là, Charbonnel, élu député, donc en 62, il a écrit dans ses différents ouvrages, notamment dans ce qu'on peut considérer comme ses mémoires, la gauche du général, là, il rappelle que la Dépêche du Midi, squeezée sur les photos, il n'y avait pas les numériques, mais se débrouillait pour faire des montages et lors des commémorations, on ne présentait pas en photo. En photo, voilà, donc c'était pas facile. Donc il faut s'affranchir de la presse quotidienne régionale, notamment de la Dépêche du Midi, que Jean Charbonnel considère comme particulièrement hostile à ses idées et à son action parlementaire. Et qu'est-ce qu'il décide, Charbonnel ? Il dit que c'est lui qui joue un rôle important dans les jeunes loups, davantage que Chirac. Donc en 64, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il réactive un titre qu'il avait créé lors des législatives de 62, où il avait été élu, qu'il avait appelé l'essor de la Corrèze. Il va en faire un titre permanent, c'est pas un quotidien, hein, bien sûr, mais il va en faire un titre permanent, il le transforme en hebdomadaire, et à partir de 1765, eh bien, il devient, non plus l'essor de la, il reste pas l'essor de la Corrèze, il devient l'essor de Limousin. Ça concerne l'ensemble de la circonscription donc régionale. Et très vite, l'essor met en évidence les réalisations du député de Brive, les subventions obtenues du gouvernement, les visites ministérielles en Corrèze, et puis au fil du temps, il se transforme, pour reprendre l'expression utilisée par un autre chercheur, Jean-Marie Danquin, cela se transforme en un perpétuel bulletin de victoire. Voilà, les jeunes loups gaullistes sont prêts en découdre et ils attendent avec confiance le rendez-vous électoral, législatif du printemps, donc 1967. Alors, les élections, elles ont lieu les 5 et 12 mars 67 et pas été un grand succès en 67, puisque parmi les 10 bretteurs, là, il y en a 8 qui vont prendre la poussière. C'est-à-dire qu'il y a seulement 2 élus, je veux dire, en 67. Hein. Ensuite, ça sera totalement différent. Mais, résultat immédiat, il y en a 8 qui mordent la poussière. Quels sont les 2 qui s'en tirent avec les honneurs ? Le docteur Ponce, qui est élu à Figeac, dans la deuxième circonscription du Lot, qui est en Corrèze. Jacques Chirac qui s'impose dans cette ducelle face au candidat communiste qui s'appelait Georges Evon, qui a réussi à devancer au premier tour à gauche le candidat de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui était pas François Mitterrand, mais qui était Robert Mitterrand, hein, l'un des frères du futur président. Et ailleurs en Limousin, eh bien, comme dans le reste de la Corrèze, c'est le fiasco. Et ce qui est paradoxal, y compris ici, c'est-à-dire que Jean Charbonnel, qui avait été élu en 62, il est battu. Ça ne fiche pas quand même pour celui qui était la personnalité la plus marquante des jeunes loups, il est battu par une personnalité qui allait avoir de l'avenir. Hein. Donc, vous vous rappelez, c'était Maître Roland, c'était pas maître à l'époque, en qualité d'avocat. Et Roland Dumas, qui est pour la Fédération de la gauche des travailleurs socialistes, lui aussi avait pas mal parcouru la campagne avec son suppléant qui était le docteur Blayac. Donc, Charbonnel a mordu la poussière, battu pour celui qui était à l'origine des genoux, du mouvement des genoux, ça a été donc un échec. Il l'empêche. Ce sera ma conclusion. La victoire de Jacques Chirac est un fait majeur, puisque pour la première fois, la circonscription de Bruxelles se donne un député qui n'est pas de gauche, démonstration que l'alternative est crédible en Corrèze, et c'est aussi le fondement de ce que certains ont appelé par la suite la Chiracie. Et à contrario, l'élection de Jacques Chirac ne fait que solidifier l'implantation gaulliste qui a été réussie en Corrèze par Jean Filliol et surtout par Jean Charbonnel, qui, faut-il le rappeler, restera à la tête de la ville de Brive de 66 jusqu'à 1995 et qui détient encore aujourd'hui le record, si vous voulez, des records dans ce domaine-là, donc de plus long mandat de maire, donc de Brive. Et 95, c'est une année qui est intéressante aussi. C'est l'année où Jacques Chirac accède aux plus hautes responsabilités donc républicaines. Et cette date, 95, est chargée de symbole parce que, c'est la conclusion, ma conclusion, si je peux employer aussi ce terme-là, parce qu'elle marque le déclin politique de l'homme, Charbonnel, et marque la montée aux élites de l'autre. Deux hommes qui, en Corrèze, unis lors du serment de Solignac, se sont pourtant éloignés au fil des années, ont incarné deux conceptions politiques bien différentes du gaullisme. Voilà.
Jean-Charbonnel n'était pas empêché à un moment donné dans son histoire politique de François Mitterrand.
Jean-Charbonnel, c'est ça, pardon ?
Rapproché de François Mitterrand.
Alors, c'est-à-dire que je crois qu'il faut différencier par rapport à Charbonnel deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il a eu une continuité à l'échelon local. Continuité à l'échelon local de ce que j'appellerais, moi, un gaullisme social. Un véritable gaullisme à l'état de municipalité, au conseil général. Par contre, à l'échelon national, et il a pris position notamment, c'est la faute à pas de chance pour le candidat qu'il a choisi, il a toujours choisi, ou quasiment systématiquement choisi, le candidat à la présidence de la République qui n'a pas été élu. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un rapprochement avec Mitterrand, mais il fut un temps où il était question de créer une sorte de gaullisme, de parti politique, et aurait été une sorte de gaullisme social qui aurait pu, avec toute la prudence qui s'impose, qui aurait pu donc être à la marge d'une majorité du temps du président Mitterrand.
C'est un gaullisme de gauche.
Un gaullisme de gauche. Un gaullisme social, un gaullisme de gauche.
D'accord, les électeurs de gauche, évidemment, eux, étaient quelquefois un peu.
Voilà, déboussolé, tout à fait.
Effectivement, en 1974, vous avez appelé à voter Mitterrand contre Giscard. En
1974, vous avez d'abord
appelé Chirac. Il a appelé à voter Mitterrand contre Chirac. C'est Giscard qui a gagné. Et en 1981, comme vous l'avez dit, il a fait l'inverse. Il a appelé à voter Giscard et c'est Mitterrand qui a gagné.
Mais de toute façon, lui, sa méthode, c'était pas celle de Chirac, il n'allait pas dans les fermes.
Non,
c'était pas dans les fermes. Je pense que c'est un peu ce que Brive lui reproche.
Il lui a reproché, tout à fait. Et pas ce contact avec ses électeurs, avec la population. Et il n'empêche, c'est quelqu'un qui a su. Sans ça, c'est un homme politique. spatial et sur le plan économique, bien sûr, les conditions, on est d'accord, qui étaient au début propices, hein, avec les Trente Glorieuses, il faut le reconnaître, mais c'est bien que, je crois, les
vues
de ce qu'ils souhaitaient faire, avaient mis en place une ligne d'action, et à laquelle ils s'est tenu la plupart du temps, et quand on regarde ce que Brive est devenu, quand on regarde, ne serait-ce que sur le plan culturel, ce qui reste aujourd'hui de Brive, bien des choses ont été faites par les municipalités, donc Charbonne, naturellement, par mon sens, je crois, là, ne pas transiger avec l'histoire en disant ceci.
Et alors,
au plan national, ça c'est autre chose.
Bon, alors, comment vous expliquez que Chirac ait pu basculer, faire basculer l'électorat de la région du Sel, du communisme, carrément?
Moi, je crois que le communisme dans un groupe, on est passé du communisme au radicalisme. Hein. Ouais. Voilà, il y a une étape intermédiaire. Moi, je considère que, il me semble que depuis qu'il n'exerce plus de fonction politique, hein, sur Chirac, on s'est rendu compte qu'il avait quand même, et pas très éloigné, de vieux fonds
radical.
Je crois. Vieux fonds radical.
Oui, oui. L'élection de Chirac s'est jouée à très peu de choses. Parce qu'il y a eu un candidat à Kellermann du PSU.
Aussi, le PSU à l'époque. Oui, PSU,
et qui fait, fait que Robert Mitterrand n'est pas sorti avant le communiste.
Et oui.
S'il n'y avait pas eu le candidat à Kellermann, peut-être les choses auraient
été complètement différentes. Auraient été différentes, oui, probablement, oui. Probablement. Donc, là, je crois, pour en revenir à ce dont on parlait, il y a un vieux fonds radical chez cet homme-là, et je pense qu'il a été capable de s'immiscer sans trop de problèmes dans la tradition.
Parce que c'était le système des radicaux, c'est d'aller dans les familles, d'aller voir les gens, c'était comme ça. L'un ou les autres, et en même temps, c'était leur radicaux.
L'approche entre les deux était totalement différente. C'était jour et nuit. Jour et nuit. Totalement différent. Je ne veux pas dire que Jean-Charles Bonnel, en réunion et en commission, était quelqu'un qui était très froid, mais on percevait fort bien que sa nature n'est pas quelqu'un qui était, on va dire, totalement tourné.
Et maintenant, comment vous expliquez depuis le temps des pas, la Corrèze s'est arrangée pour avoir des gens qui étaient extrêmement bien situés par rapport au pouvoir, qu'ils soient parachutés ou non, mais presque à tous les coups quand même. Comment on explique ça?
Je n'ai pas d'explication toute faite. Moi, je considère que les Corréziens, certains Corréziens, ont été et sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ont toujours senti. Ils ont toujours considéré que le pouvoir venait de Paris. Et qu'ils ont toujours considéré qu'il valait mieux être proche du pouvoir et que l'opportunisme, selon.
Alors ça c'est pourquoi? C'est pour une question de pauvreté? C'est parce que c'est une région pauvre qui a besoin de ses protecteurs?
Alors est-ce qu'on peut considérer que c'est ça? Ça a dû y jouer? Est-ce que c'est uniquement ça? Je ne sais pas, mais faire entendre à Paris bien ce qui se passe dans la province éloignée, pour employer un terme qui est un petit peu vieilli, ouais, pourquoi pas?
Mais ça s'arrête là quand même, parce qu'après, quand vous descendez vers Toulouse, quand vous passez de l'autre côté de Lyon, c'est des gens qui sont totalement indépendants, ils ne veulent pas entendre parler de Paris. ils ne sont pas du tout centralisateurs, ils ne veulent pas être rattachés à Paris, tandis qu'ici, ici, les gens se cherchent.
Il y a aussi en Corrèze ce que l'on peut appeler l'assistanat. C'est-à-dire que les subventions qui sont arrivées
de Paris, oui.
De Paris, alors là, il y en a eu des tripotées. Hein. Donc, je me souviens, la profession qui a été la mienne, je peux en parler désormais, puisque la prescription qui était la mienne avant que je m'enseigne, il y a pas longtemps, il y avait les subventions du ministère de l'Intérieur qui s'appelaient les subventions exceptionnelles. Et le titre du chapitre, subvention, c'était le chapitre 67-51. Et dans le service où je travaillais, où j'avais la responsabilité, quand les autorisations de programme et les fameuses subventions sur le chapitre 67-51 du ministère de l'Intérieur arrivaient, c'était quand même assez édifiant. Hein. Je peux vous dire qu'il y a eu énormément d'argent qui est arrivé sous la forme de subventions dites exceptionnelles, qui arrivaient en Corrèze, qui étaient utilisées à bon escient, mais. Moi, je suis toujours dubitatif quand, avec toute la manne qui est venue des ministères, et ne pas avoir été capable, c'est une petite critique, ne pas avoir été capable de réaliser au hasard le contournement du sel avant qu'il y ait l'autoroute, ça pose quand même souci. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même, il y a eu un saupoudrage. Alors, est-ce qu'on peut aller jusque. Associé au terme de ce pouvoir, clientélisme. Oui, je pense. Donc voilà, au lieu de faire. Bon, Chirac, quand même, c'est lui qui, en 86, par le CIA, le Comité international d'aménagement du territoire, a été à l'origine du désenclavement, en fait, la décision qui a été prise, hein, avec. Les autoroutiers, c'est 86, c'est 86, c'est élu, le ministre, c'est 67. Hein. C'est pour ça que.
C'est un bon calcul, si vous voulez, de la part de la Corrèze, de récupérer des parachutés, à l'époque Chirac, maintenant l'époque Hollande, c'est quand même assez original. Hein. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être rattaché à Bordeaux? Mais voilà, bien embêté. Parce qu'ils vont plus être rattachés à Paris, si on est rattaché à Bordeaux.
Parce qu'on n'aura rien.
Eh bien, vous n'aurez rien.
On n'aura rien.
C'est le point de plus que nous
n'avons pas. C'est le littoral.